Il s'est recueilli quelques instants au seuil de l'importante porte de bronze. Puis dans le silence, le 20 novembre dernier, les battants de la porte sainte se sont refermés. En un an, plus de 21 300 000 pèlerins venant de 156 pays l'ont traversé. Mais ce ne sont pas ces chiffres impressionnants qui ont rendu cette année exceptionnelle. Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, grand organisateur du jubilé.
Je pense que vraiment l'Église, dans tout le monde, a vécu un moment très fort de grâce. Parce qu'on a découvert la tendresse de Dieu. La tendresse devient aujourd'hui, dans une condition générale de violence, d'arrogance, devient le désir que chacun garde dans le plus profond de son cœur. On ne peut pas oublier pendant cette année les vendredis de la miséricorde. Le Saint-Père, il a visité les nouvelles pauvretés de la société d'aujourd'hui. Et ceux-là sont des signes qui sont donnés à l'Église, à nous évêques, aux prêtres, à notre communauté paroissiale, c'est-à-dire la nécessité de voir que Dieu est proche et tous ceux qui ont besoin de consolation, ils peuvent trouver vraiment une main qui est donnée pour aider. La miséricorde vécue dans le jubilé a été vraiment un signe de conversion pastorale. Maintenant, il faut voir dans quelle façon on peut vivre de cette expérience.
Et pour aider les fidèles à regarder vers l'avant, le pape leur a remis une lettre apostolique « Misericordia et misera » à l'issue de la messe de clôture du jubilé.
Anche si chiude la porta santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia.
Même si la porte sainte se ferme, dit-il, la vraie porte de la miséricorde, le cœur du Christ, nous reste toujours ouvert. La miséricorde ne saurait être, dit-il, une parenthèse dans la vie de l'Église, c'est une de ses clés de voûte. Ce fut l'un des événements les plus significatifs de cette année jubilaire. Sous les applaudissements de plus de 120 000 personnes, catholiques enjouées ou sikhs enturbanées, le 4 septembre dernier, le pape a inscrit Mère Teresa au catalogue des saints.
Love, passion, charity, help of the poor. We are inspired by her humility.
Amour, passion, charité, aide aux pauvres, son humilité, sa simplicité nous inspirent. Pour elle, c'était l'humanité qui comptait, pas la religion. Nous appartenons tous à une seule famille.
C'était un document très attendu. La synthèse des deux synodes sur la famille qui se sont déroulées en octobre 2014 puis 2015 au Vatican. En avril dernier, finalement, le pape a publié Amoris Laetitia, la joie de l'amour. Il y parle des défis de la famille, il développe longuement l'amour dans le mariage ou encore la fécondité de cet amour familial. Cette exhortation apostolique, un document très dense de plus de 300 paragraphes, fixe les orientations de la pastorale familiale de l'Église catholique en ce début de 21e siècle. C'est une sorte de pédagogie de la famille. Selon le cardinal Christoph Schönborn, il est l'archevêque de Vienne en Autriche. Il était président des cercles germanophones des deux synodes.
Le pape François est jésuite. Il a exercé la fonction de pédagogue et on le sent. Lisez le chapitre sur l'éducation et mettez-le en rapport avec le chapitre 8, comment accompagner des situations irrégulières. Et vous verrez qu'il y a une grande proximité. Ce qu'il dit sur l'éducation de la conscience. Ne pas penser que la conscience s'éduque en mettant partout des panneaux d'avertissement, mais de l'éveiller. Donc, pour moi, le terme clé de ce document, c'est l'accompagnement, cette attitude pédagogique d'un père envers ses enfants, d'un maître qui accompagne des jeunes dans la croissance.
Là, il y a vraiment un appel aussi à la responsabilité des pasteurs.
Je crois, il le dit explicitement à un endroit, il dit « Je comprends ceux qui veulent se cacher derrière des règles sûres, mais je préfère une église qui sort, qui se salit les souliers dans la boue. » C'est-à-dire, c'est bien d'avoir la clarté sur les normes, mais d'abord, il faut rencontrer des personnes dans leur vie, dans leur situation, et ce n'est pas une éthique de la situation, une morale de la situation, mais c'est une morale qui est attentive aux innombrables diversités de situations, parce que chaque histoire est unique et chaque personne mérite qu'on la considère dans sa vie concrète.
Auguri Papa Francesco, joyeux anniversaire au pape François. Il a fêté ses 80 ans et se souhaite une vieillesse tranquille, religieuse, féconde, mais aussi joyeuse. Le pape a souhaité prendre son petit déjeuner d'anniversaire entouré de 800 abris, car il reste fidèle à son souhait, faire de l'Église une mère, offrant sa caresse à celui en manque de consolation. C'est dans cet esprit que le pape s'est rendu en Ombrie, auprès des populations italiennes éprouvées par une série de tremblements de terre, ou dans un camp de réfugiés de l'île grecque de Lesbos. Ému par tant de souffrances, François a décidé d'offrir l'hospitalité du Vatican à 3 familles musulmanes de Syrie qui s'y trouvaient, dont celle de Nour.
J'aime bien remercier le pape pour son geste, parce que il n'y a pas un homme religieux musulman, il n'y a pas un président arabe qui avait fait la même chose. Pourtant, on dit qu'on partage les mêmes choses avec eux, on partage la langue, on partage la religion, mais il n'y avait pas un homme religieux ou un président arabe qui a senti nos souffrances. Il y a seulement le peuple qui a prié pour nous, qui a senti nos souffrances, qui était allé à l'Esfos pour voir ce qui s'est passé. Donc, merci pour nous sauver.
Lesbos était également le fruit d'une volonté commune, celle du pape, du patriarche de Constantinople ou encore de l'archevêque grec orthodoxe d'Athènes. Ensemble, les dignitaires chrétiens ont appelé les dirigeants politiques à répondre avec courage à la crise humanitaire massive en cours. Ils ont plaidé pour la fin de la guerre au Moyen-Orient. Un appel déjà formulé le 12 février 2016 à l'aéroport de La Havane à Cuba. Le pape et le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill, se sont rencontrés, rencontre historique préparé depuis des décennies. Le père Hyacinthe d'Estivelle est responsable de la section orientale du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
C'est une rencontre qui est désirée et préparée depuis très longtemps. Il y avait des projets quasiment depuis 25 ans qui n'ont jamais pu aboutir, et la rencontre est le fruit d'un long travail et d'une intensification des relations ces dernières années, en particulier depuis le pontificat du pape François. Ce qui avait empêché la rencontre jusqu'à présent, c'était un certain nombre de peurs de la part du patriarcat de Moscou, la peur du prosélytisme catholique en Russie, la peur de ce qu'on appelle aussi la méthode de l'uniatisme, qui consiste dans le rattachement de parties de l'Église orthodoxe à l'Église catholique, notamment en Ukraine. Et je pense que ces peurs, elles ont été dépassées. L'Église orthodoxe russe s'est rendue compte que, de la part de l'Église catholique, il n'y avait nul désir de prosélytisme en Russie, et qu'il n'y avait aussi nul désir de reprendre la méthode de l'uniatisme. Maintenant, l'Église catholique promeut une autre méthode d'unité, qui est la méthode écuménique, c'est-à-dire une méthode qui ne consiste pas dans un rattachement, mais qui est un chemin que nous faisons ensemble, un chemin de fraternité, de collaboration dans divers domaines, de dialogue théologique, aussi de charité. Toute l'idée de cette rencontre est de dire que nous ne sommes pas concurrents, mais nous sommes frères.
2016, une année décidément écuménique, puisque le 31 octobre dernier en Suède, le pape a participé aux côtés des leaders de la Fédération luthérienne mondiale à la commémoration du 5e centenaire de la Réforme. Commémoration commune inédite, fruit là encore d'un dialogue amorcé il y a 50 ans. André Birmelet est pasteur, théologien luthérien. Il travaille depuis 1974 au Centre d'études écuméniques de Strasbourg.
Il est décidé en avril 1966 d'un dialogue systématique. Et très très rapidement, on est d'accord sur la compréhension du salut. C'était l'enjeu du 16e. L'accord est assez rapide. Et alors, c'est l'initiative politique de Jean-Paul II qui est très importante. Il demande qu'il y ait pas un résultat de dialogue, mais une déclaration officiellement signée, conjointe sur le salut. Il demande à ne pas sortir du millénaire sans que ce soit fait. Et c'est la raison pour laquelle cet accord est signé en 1999. Depuis cette date, il y a un fondement commun, officiellement reçu par les magistères des deux églises. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons à présent. Nous ne sommes plus dans une situation d'opposition, nous sommes dans une situation de consensus fondamental. Et c'est bien la raison pour laquelle le jubilé de 2017 se présente sous de tout nouveaux aspects qui n'ont plus rien à voir avec les célébrations des centenaires précédents.
Avec le pape François, l'Église concrétise des années de dialogue avec les chrétiens, mais aussi avec les bouddhistes ou les musulmans. 30 ans après Jean-Paul II, en septembre dernier, François a ainsi rassemblé des dignitaires de 8 confessions à Assise, convaincus du lien indissoluble entre la paix et un authentique engagement religieux. Jamais une guerre n'est sainte, clamait alors François, avec le grand imam de l'université d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite. Ils avaient déjà condamné fin mai la violence commise au nom de Dieu. François au Vatican, ce fut également en 2016 un changement dans le missel romain. Le jeudi saint, les femmes pourront désormais être elles aussi choisies pour le rite du lavement des pieds. Autre décret, sur volonté du pape, la mémoire liturgique de Sainte Marie-Madeleine a été élevée au rang de fête dans le calendrier romain. François a été le premier depuis Pie XII à publier cette année une constitution apostolique consacrée à la vie contemplative féminine, Vultum Dei Quaerere, à la recherche du visage de Dieu. Monseigneur Rodriguez Carballo, secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique.
Il y a des éléments concrets très importants pour la vie des clôtures. Chaque monastère pourra proposer à la Congrégation une forme concrète de clôture pour la vivre. Après, il y a des éléments importants dans la formation. Un autre élément, c'est la liaison entre les monastères contemplatifs avec l'ordre masculin, pour maintenir l'esprit et le charisme. Et encore, il y a des autres choses, comme la mission de les contemplatifs. Pas pour sortir du monastère, mais pour avoir une mission concrète dans la vie de l'Église et du monde. La Constitution, vraiment, répond à ces exigences de la vie contemplative aujourd'hui.
Le Saint-Siège, qui a également signé plusieurs accords cadres cette année avec le Timor, le Bénin, la RDC et la RCA, la Centrafrique qui compte son premier cardinal, le 19 novembre dernier, l'archevêque de Bangui, mais aussi le nonce en Syrie, l'archevêque de Port-Louis ou encore de Bruxelles, ils ont reçu la barrette cardinalis. Le Collège des cardinaux compte désormais 120 électeurs pour un total de 228 membres. Et puis enfin, changement de taille au sein de la curie romaine. Le 1er septembre dernier, on a assisté à la naissance d'un unique dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Et à partir du 1er janvier prochain, Justice et Paix, Coronum, la pastorale de la santé ou celle des migrants fusionneront en un même dicaster pour le développement humain intégral.